Bonjour et bienvenue comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, avec du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Flora Bernard, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Stéphane Boja et Nicolas Slimani.
Cette semaine, on va au collège Hector Berlioz, puis à la rencontre des mineurs isolés étrangers.
On nous parle de murs qui se construisent entre certains pays, mais le mur ici, il existe. Sans qu'on le voie, personne ne traverse cette rue ou ne traverse l'autre rue.
Nous sommes des mineurs. On ne sait pas comment on va organiser notre avenir. Bientôt, je vais avoir 17 ans, mais il n'y a pas aucune possibilité pour que je puisse partir à l'école. C'est la galère totale.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Je parle depuis les États-Unis où il ne se passe pas un jour sans un de ces rebondissements dont Donald Trump a le secret. 19 mensonges ces 5 derniers jours et 57 contre-vérités en 3 petites semaines de présidence. Mais pendant que les uns et les autres protestent, Trump, lui, tire à boulets rouges sur les soi-disant juges qui ont retoqué son Muslim ban et les journalistes mal biaisés qui instruisent à charge. Rien à voir avec ce qui se passe en France, n'est-ce pas ? Rassurez-moi. Alors cette semaine, Charlotte Perry nous fait entendre la suite de son reportage sur la réforme de la carte scolaire dans le 18e arrondissement de Paris au nom de la mixité sociale. Dans la même veine, Antoine Chao, lui, poursuit son enquête sur le sort réservé aux migrants mineurs qui arrivent seuls chez nous, la patrie des droits de l'homme si prompte à donner des leçons au monsieur peroxydé. Alors loin des cassandres du choc des civilisations et du grand remplacement, tous deux nous font rencontrer des citoyens qui, au quotidien, retissent patiemment des liens que des oiseaux de malheur s'acharnent à vouloir détricoter. Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, que tant qu'on montera les faibles les uns contre les autres pour se partager les miettes, les puissants, eux, seront tranquilles avec leurs gâteaux.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
L'incroyable ségrégation scolaire française.
Oui, nous voulons plus de mixité sociale dans les collèges de France. Ce que nous allons faire, c'est tester une autre voie.
La ministre de l'Éducation envisage de modifier la carte scolaire. Objectif, apporter de la mixité sociale et scolaire dans des établissements devenus collèges ghetto.
D'un côté, le collège Antoine Coysevox, avec en moyenne de bons résultats. Et à 600 mètres de là, le collège Hector Berlioz, décrit comme défavorisé.
Collège Hector Berlioz.
Enlevez la capuche.
Allez les filles.
Bonjour.
Les carnets s'il vous plaît et vous montez directement en cours.
Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris. À 600 mètres de distance, il y a deux collèges. Le collège Antoine Coysevox, qui compte 11% d'élèves issus de milieux défavorisés et 80% de réussite au brevet. Et le collège Hector Berlioz, qui n'a cessé de se ghettoiser et qui lui compte près de 49% d'élèves défavorisés et moins de 50% de réussite au brevet. Selon l'OCDE, la France est le pays où le poids de l'origine sociale pèse le plus sur la réussite scolaire. Et seule une véritable mixité pourrait aider à combattre ces inégalités. Alors pour tenter d'atténuer les écarts sociaux entre deux établissements d'un même quartier, les pouvoirs publics ont voté lundi 30 janvier le projet de sectorisation multicollège. Dès la rentrée 2017, les élèves de Coysevox et de Berlioz seront mélangés. La semaine dernière, nous avions rencontré les parents et les enseignants du collège Coysevox, farouchement opposés au projet. Aujourd'hui, c'est au collège Hector Berlioz que nous nous rendons.
Monsieur Boukelupin, pardonnez-moi de vous déranger, c'est juste pour vous faire savoir, il y a France Inter qui vient d'arriver. Je fais monter ? Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Très bien.
Ça va et vous ?
Ça va. Vous en prie, merci.
Je peux juste vous demander de vous présenter.
Farid Boukelifa, principal du collège Hector Berlioz.
Ça fait longtemps ?
À la rentrée 2016, donc il y a 4-5 mois.
C'est un collège qui avait assez mauvaise réputation avant que vous arriviez, en tout cas.
Il semblerait qu'il ait mauvaise réputation depuis un certain nombre d'années. c'est aussi lié au profit socio-économique des familles et que les établissements les plus proches sont des établissements favorisés. Si vous remontez plus au nord, donc entre les Maréchaux, le périph, et là vous avez effectivement plutôt du logement social. Et au-delà de la rue Championnet, on se rapproche de Montmartre. Et donc c'est des populations plutôt favorisées, voire très très favorisées. Et cette distinction socio-économique a des effets effectivement sur le climat scolaire.
Les familles qui le peuvent évitent.
Exactement, oui. L'impact, c'est une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles dites défavorisées. La plus défavorisée, il représente dans l'établissement 47
à 49%. 47 à 49% d'enfants issus de familles très défavorisées.
Oui.
Vous voulez boire quelque chose, un café ?
Ouais, je veux bien un petit café. Hein. Merci.
Non, c'est une crise.
Julia. Ah oui, c'est elle. Oui, oui. Donc, elle n'est pas là, l'infirmière ?
Non.
Elle est où ?
En C22.
En C22 ?
C22.
Ouais. C'est de l'autre côté, ça ?
Ouais.
Non, c'est quelqu'un qui a des soucis d'angoisse. J'ai fait brillant, d'ailleurs, par ailleurs. Mais,
ah ouais ?
Qui vient à l'hôtel social. Ça fait deux fois qu'elle fait une crise en pleine classe. Donc, on a fait les pompiers. Elle est pas là, l'infirmière, mercredi matin ? Elle est pas là ?
Non, elle est pas là, le mercredi.
Non, mais appelez le SAMU. Vous dites qu'il y a une jeune fille qui est en crise, elle avait déjà eu ce problème il y a quelques temps, en tout le début d'année, lorsque retour des vacances. Il faut qu'il vienne, quoi. C'est beaucoup de logements sociaux, donc des logements exigus, des familles nombreuses, une surreprésentation des familles monoparentales. Aussi des populations, certains issus de l'immigration, qui sont en mouvement, en déplacement perpétuel. Ils peuvent être en errance, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que dans l'établissement, les enseignants, ils ont une attention particulière, effectivement, pour les élèves. Une grande bienveillance.
Il y a combien d'élèves ?
Ici, il y a environ 360 élèves et sur la SECPA, 70 élèves.
Donc la SECPA, c'est les élèves qui sont vraiment en très grande difficulté.
Oui, oui, tout à fait, ouais.
C'est la sonnerie,
c'est la fin. Sonnerie, ouais. Là, c'est la fin des cours et donc il y a une récréation qui va durer 15 minutes.
Rapprochement entre Berlioz et Coysvox.
Oui.
Vous êtes au courant ?
Oui, on est au courant.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est nul. C'est pas bien, du tout.
On veut garder Berlioz, on ne peut pas changer. On veut rester dans notre camp, chacun son camp.
Chacun son camp ?
Oui. Parce qu'il y en a, ils sont méchants et tout ça.
À Coysvox ?
Oui.
Pourquoi tu dis ça ?
Parce qu'il y a des gens, ils disent que là-bas, ils tapent les gens et tout. Pourquoi c'est pas eux qui viennent au moins ?
Mais ça va être les deux. Il y en a qui vont aller là-bas, il y en a d'autres qui vont venir ici. Bonjour. Toi, t'en penses quoi du rapprochement entre Coysvox et Berlioz ?
Bah, c'est bien, parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes, mais en même temps, je sais pas si on va s'habituer à eux, en fait. Parce qu'il paraît, ils ont fait des pétitions contre nous, etc. Donc, je sais pas.
Ah, ils ont fait des manifestations, parce qu'ils voulaient pas, eux, le rapprochement.
Bah, s'ils veulent pas, tant pis, hein. Moi, sincèrement, je m'en fous. S'ils viennent, c'est bien, mais s'ils viennent pas, tant pis.
Faut tester pour voir avant de dire. Hein. Donc, on verra l'année prochaine. Hein.
Vous appelez comment ?
Nouad.
Abdoulaye.
Bakan.
Et toi ?
Youssef.
Moi, je dis que l'échange, c'est nul, ça sert à rien.
Ça sert à rien !
Non, vous allez, on se range, s'il vous plaît.
Allez, on se range. Et du coup, là, quand on voit tous les élèves, il y a quand même une forte population d'élèves issus de l'immigration, visible en tout cas.
Oui, oui, tout à fait, oui. Bah, beaucoup de familles sont issues de l'immigration, africaine notamment, puis quelques-uns des Antilles.
Pour moi, la mixité sociale, elle devrait être dans tous les territoires de la République, c'est très important. Le vivre ensemble, on ne le construit pas dans l'entre-soi. Jamais. Il n'y a plus en France, il y a eu l'armée, il y a eu l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus d'instance, de lieu où on peut réunir effectivement toutes ces populations. Il reste l'école. Et l'enjeu, c'est au-delà, c'est la cohésion nationale. C'est aussi des gamins de la même génération qui pourront peut-être se connaître, se fréquenter, et puis ne
pas se taper sur la gueule comme ça peut arriver. C'est pas forcément lié à des raisons sociales, c'est plutôt... Là, c'est une notification à un quartier, à un établissement scolaire. C'est un argument supplémentaire pour le secteur multicollège. Pour pas qu'il rentre dans cette logique de confrontation, logique aussi de territoire, d'occupation de territoire. Faut pas qu'on tombe là-dedans. Après, il y a aussi les drapeaux. On a tenu à installer le drapeau français et européen au milieu de la cour. Donc les élèves sont rangés face au drapeau.
C'est important, ça?
C'est très important. Le rassemblement autour de valeurs communes, et ça commence par le respect des règles. Donc à partir des respects des règles, on aura leur adhésion à des valeurs qu'on partage tous ensemble, et notamment autour de ces deux drapeaux.
Français et européen?
Oui, oui, français et européen, parce que un certain nombre d'élèves sont des citoyens en devenir, mais des Français en devenir, parce que certains ne sont pas nés Français. Et donc c'est important qu'on leur fasse partager ce plaisir d'être ensemble dans un pays comme la France. Pour quelqu'un issu de l'immigration, c'est le pays de l'espoir.
Et c'est pas semblant, si le savoir est une arme, pourquoi se munir par la plan? J'ai mauvaise réputation, mais c'est mieux comme ça. Cassez-vous, laissez-moi respirer. J'ai mauvaise réputation, attention à l'obstacle. Détends-toi juste pour regarder. Tout le monde médite de moi, sauf les muets, ça va de soi. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Petit, 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 petit bonhomme. Petit, 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 petit bonhomme. Petit, 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 petit bonhomme.
Collège Hector Berlioz, Paris 18e, mars 2015. Mardi 31 mars, une enseignante a été agressée devant le collège par un élève. Le personnel présent ce jour-là a décidé à l'unanimité d'exercer son droit de retrait, car il y en a assez de la situation délétère qui règne aux abords comme à l'intérieur du collège. Après cette semaine de mobilisation, ils ont le sentiment qu'il y a un avant et un après et qu'il fallait cela pour que cela bouge dans le quartier, même si ce n'est pas fini.
Collège Hector Berlioz, bonjour.
Allô? Allô?
Alors vous, vous êtes à l'accueil, c'est ça?
Oui, voilà, je vois ce qui rentre, ce qui sort. Et
Vous êtes là depuis combien de temps?
Oh, ça fait peut-être un an et quelques.
C'est comment de travailler ici?
Bah ça va, c'est agréable, ça me plaît.
Ils sont comment les enfants ici?
Bon, ils sont un petit peu comme partout, hein. Un peu turbulent parfois, mais pas méchant.
Parce que pendant longtemps, le collège Berlioz, il a traîné une mauvaise réputation.
Oui, c'est ce qu'on entend, mais bon, je sais pas si c'est vraiment fondé, vraiment, vraiment. Il y a eu beaucoup de dire, mais bon, d'après certaines personnes, c'était un peu exagéré. Hein.
On vous a jamais tapé dessus, on vous a pas agressé?
Pas du tout, pas du tout. Et au contraire, ça se passe très bien, même avec les enfants qui sont un peu plus durs. C'est une chose que je trouve qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un respect. À partir du moment qu'on est là, qu'on leur parle, qu'on leur explique la chose, ben ils s'arrêtent. Point barre. En tout cas, avec moi, ça se passe comme ça. Hein. Je n'ai pas eu de soucis avec les enfants. Au contraire. Hein. Puis bon, Berlioz, faut arrêter, hein, attendez.
Il y en a même qui disent qu'ils ne les mettront pas à Berlioz, tant pis, ils les mettront dans le privé.
Oui, ben, tant pis, ben, ils iront dans le privé. Tant pis, mais bon, c'est dommage hein, de s'arrêter à ça, quoi.
Voilà, ça vous appelez comment?
Myriam.
Oh, un bruit qui court!
Dédicace à Youssef!
Sur France Inter.
Et après quoi, là, les besoins du sein? Alors, reculez, s'il vous plaît! Reculez, s'il vous plaît!
Comment tu t'appelles?
Dano.
Dano.
Élève de la 5e A.
Et vous en pensez quoi alors du rapprochement entre Coisvox et Berlioz?
Que c'est pas très bien. Coisvox, je sais pas encore, mais ça me plaît pas. Je me fâche ici.
T'as des bonnes notes, toi?
Ouais.
Ouais. Tu veux faire quoi plus tard?
Dans le commerce.
Le collège, il est pas bête, il est intelligent, madame. Moi, j'ai envie de parler, moi.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Hassan. Alors, moi, j'ai pas envie qu'ils viennent parce que eux, ils nous ont insultés. Déjà.
les 4 Case Vox. Ils ont dit on est sauvages, ils ont dit qu'ils ont peur de venir ici. Parce qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes. Donc du coup, j'ai pas vraiment envie qu'ils viennent dans ce collège.
Mais vous en connaissez des gens à Case Vox ?
Non, je ne parle pas avec ce genre de personnes.
Voilà, c'est quoi, c'est RFM ça ?
France Inter.
France Inter.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Bon voilà, m'interrogez-moi là, on va parler là.
Bon, moi je faisais un reportage sur le rapprochement qu'il va y avoir entre votre collège, Berlioz, et Case Vox.
Ah, nous ça ne nous concerne pas, nous l'année prochaine on est au lycée, on s'en fout.
T'es en troisième ?
Ouais.
Si tu redoubles.
Je redouble pas.
Non, on est contre.
Pourquoi ?
Ils veulent pas de nous, nous on veut pas de. C'est tout. On veut ça là-bas, il n'y a que des casses.
Parce qu'en fait,
Berlioz,
c'est un collège de putes.
Un collège de putes ?
De putes, oui, de délinquants. On est même passé sur le Parisien. Parce que il y a, je crois, 2 ans, un élève avait frappé un professeur.
T'étais là, toi, à ce moment-là ?
Oui, j'étais là. C'était un peu choquant.
Et ça a changé depuis qu'il y a le nouveau directeur ?
Oui, ça a beaucoup changé. On n'a plus le droit au téléphone dans les établissements, plus trop aux capuches.
Là, t'as ton téléphone dans la main.
Voilà, mais, enfin, ouais. On est collé samedi matin.
Et là, du coup, c'est plus strict et il y a moins de problèmes ?
Ouais, il y a moins de problèmes, il y a encore quand même quelques problèmes.
Il y a quoi comme problème ?
Enfin, il y a toujours des gens qui perturbent. Enfin, ça a changé, quoi. C'est moins pire qu'avant.
C'est mieux.
Voilà, c'est mieux. Enfin, mais je préfère quand même avant.
Pourquoi ?
Parce que là, c'est trop strict. Par exemple, je sais pas si vous avez vu dans la cour, il y a des carrés pour se ranger. Et si ton pied, il est en dehors du carré, on prend ton carnet et on est collé samedi matin.
Non, ça devient grave.
Ouais, c'est très grave.
Ouais, mais vous êtes dans l'école pour quoi déjà ?
C'était un papier par
terre. Voilà.
T'as été collé parce que...
En fait, j'avais massé tête et j'ai enlevé l'emballage. Et j'ai jeté sur une élève. Mais c'était pour rigoler. Monsieur Holtz, il m'a collé.
Un samedi matin ?
Ouais, mais je n'ai pas vu. Hein.
Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai rien eu. Il s'en rappelle plus.
Vous vous appelez comment, en fait ?
Moi, je m'appelle Linda.
Lintou.
Amira.
Sorona.
Hilary.
Là, vous avez cours encore ou c'est fini ?
Non, moi j'ai terminé.
Moi aussi, là je vais sortir.
C'est une radio ! C'est une radio ! C'est une radio ! C'est une radio ! Allez, c'est la main ! Je peux faire ouais, Berlioz, c'est la main ! Berlioz, c'est la main ! Berlioz, c'est la main !
Je crois qu'il y en a qui essayent de travailler dans la classe à côté.
S'il vous plaît, là, il y a des cours. D'accord ?
Donc là, c'est M. Holtz qui nous crie dessus car nous avons fait du bruit dans les couloirs.
Oui, mais moi, je vous crie pas sur la différence de vous.
M. Holtz est super gentil avec nous. On l'aime beaucoup.
Il
est très gentil. Il est très chaleureux avec les élèves.
En tout cas, c'est vraiment un collège bien.
Un collège accueillant, chaleureux.
On voit le l'avenir.
On voit que ça va venir.
Berlioz, c'est la base.
Votre carte. Sortez votre carte d'assaut. Eh oui, mais c'est pas nouveau. Viens voir.
Ouais.
Ambiance.
Allez.
Principal adjoint, Monsieur Holtz.
Bienvenue dans mon petit bureau. Vous servez un café ?
Volontiers. Il fait chaud ici. Hein.
Ah là là. C'est le thermostat qui ne marche plus. Alors. Bon, vu que je viens d'Afrique, c'est pas trop grave, mais quand même.
Vous venez d'Afrique ?
Eh oui.
J'ai travaillé 12 ans en Guyane, j'ai travaillé 6 ans au Nigeria, 4 ans au Kenya. Et je suis revenu en France pour mes enfants, pour qu'ils connaissent la France.
Vous faisiez quoi là-bas ?
J'étais directeur d'école et j'étais chef d'établissement pendant 6 ans à Abuja, avec des élèves très faciles on va dire. Une bonne partie, quand ils ont le bac, partent dans des grandes écoles internationales, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe, en France, en Angleterre. Bon, ce ne sont pas du tout les mêmes élèves. Mais Berlioz, c'est un choix.
C'est vous qui avez...
Oui, après avoir travaillé pendant 10 ans avec des élèves très favorisés dans le monde, c'était mon choix de revenir à Paris et d'aller en réseau d'éducation prioritaire pour justement aider ces élèves qui sont en difficulté. Et ce sont les enfants de demain, les enfants de la France. Et voilà, je me sens vraiment utile. On doit avoir à peu près 40% déjà de familles monoparentales. Beaucoup travaillent par exemple dans les hôpitaux ou femmes de ménage ou travaillent donc tôt le matin puis vont retravailler le soir. Voilà, en fait des parents quand ils ont du travail, ils travaillent beaucoup et c'est pas toujours facile de s'occuper des enfants à la maison aussi. Surtout si on est en famille monoparentale.
Ici, le collège, il est situé vraiment au nord du 18e, tout près du périph. De l'autre côté, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est entre Porte de Saint-Ouen et Porte de Clignancourt. Et dès qu'on passe deux rues au-dessus, là, la rue Championnet ou Marcadet, on arrive sur la butte Montmartre. Et là, 18e. Là, c'est le beau 18e.
Et c'est incroyable parce que quand on va faire des... Genre, je vais dans un magasin à côté acheter à boire, du côté du beau 18e, je rencontre plus aucun élève du collège. Alors que quand je pars de l'autre côté, plutôt vers le périph, là, je rencontre toutes les familles du collège. C'est vraiment très surprenant, hein, très surprenant. Alors que là, on parle de quelques dizaines de mètres. Hein. Là, c'est même plus 100 mètres ou 200 mètres. C'est de quelques dizaines de mètres, on a deux mondes différents. Et il y a quelque chose qui m'a bien frappé. C'est l'autre jour, des élèves sont allés au théâtre Chaillot. Nous étions en avance pour le spectacle du soir et nous sommes arrivés au Trocadéro. Donc on a pu sortir et puisqu'on avait un petit peu de temps, on est allé sur l'esplanade du Trocadéro pour voir la tour Eiffel illuminée. Et là, les élèves, mais ils étaient... c'était énorme pour eux, quoi. Ils étaient comme des Japonais, des touristes japonais à Paris. Ils habitent Paris, mais ils connaissent pas le centre de Paris, ils connaissent que leur quartier. Ils habitent au bout de la ligne 4, porte de Clignancourt. La ligne 4 traverse tout Paris, du nord au sud, passe par Saint-Michel, Notre-Dame, etc. Et quand ils se déplacent là-bas, bah, ils découvrent un autre pays, quoi. Alors que c'est leur ville. Donc c'est ça qu'on veut leur montrer, on veut leur faire aimer, et leur faire comprendre, et leur faire connaître que c'est leur ville, c'est leur pays. Et bien sûr, ils en font partie. C'est incroyable. Ils vivent dans leur quartier, ils n'en sortent pas et en même temps, ils ont un peu peur d'en sortir parce qu'ils se sentent à l'étranger autre part. Ils n'ont pas toujours les codes, ils ont une idée négative d'eux et ils n'osent pas aller dans ces quartiers où ils ne sont pas à l'aise, où ils ne maîtrisent pas ces codes. Et nous, notre objectif, c'est de les aider, de leur donner confiance qu'ils peuvent réussir à l'école et que l'école, encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, ça peut être un ascenseur social. Bien sûr, bien sûr. En France, l'école peut être un ascenseur social. Mais je les comprends aussi qu'ils aient un peu peur. Je comprends que les deux côtés aient peur. Et donc, on nous propose ce projet avec le rectorat, avec la mairie de Paris. Eh bien, faisons-le. On ne peut pas continuer à vivre complètement séparés. On nous parle de murs qui se construisent entre certains pays, mais le mur ici, il existe. Sans qu'on le voie, personne ne traverse cette rue ou ne traverse l'autre rue. Eh bien, il va falloir que chacun de notre côté, et donc les adultes, nous, on les aide à, justement, à se rapprocher les uns des autres et à mieux se connaître. Et l'objectif, c'est la réussite de tous. Coysevox y gagnera, Berlioz y gagnera. Le quartier y gagnera, Paris y gagnera, la France y gagnera. C'est ça l'objectif, c'est d'y arriver ici, mais d'y arriver autre part aussi. Et on y croit, vraiment on y croit. Et plus qu'on y croit, on va le faire et on va y arriver. Vraiment on va y arriver. On voudrait améliorer cet accueil aussi dans le...
Ah, les poubelles dans le hall d'entrée.
Dans le hall quand on rentre. La salle, quand on arrive, qui est un préau mini-gymnase, bon, ben, on va essayer de le transformer en salle d'exposition permanente, où en permanence pourront exposer nos élèves, pourront venir les parents, pourront venir même les personnes du quartier, visiter et voir ce qu'ont fait nos élèves. Voilà, on veut transformer petit à petit nos locaux, ce sont les locaux des élèves. Pas vrai ? C'est de chez vous.
C'est l'homme de ménage qui... Bonjour.
Oui, je voulais savoir quoi.
Vous appelez comment?
Charles. Enfin, je m'appelle Charlemagne, mais...
Charlemagne?
Charlemagne, c'est mon prénom, mais appelez-moi Charles.
Et du coup, vous travaillez à Berlioz, vous, depuis combien de temps?
Depuis 1999.
Ouh là là.
Ah ben, c'est vieux, c'est moi le plus ancien ici. Moi, j'ai pas de problème personnellement ici. J'arrive, je fais mon travail, je nettoie la cour, je nettoie les classes, les couloirs, les toilettes. Ouais.
Et il paraît qu'il y a quelques années, il y a eu des professeurs agressés et puis des personnels aussi.
Avant, oui, avant, fuite, oui. Oh, ouais, enfin, disons, ça s'est calmé, quoi. On dirait pas, il y a quand même des choses, mais ça s'est calmé, ouais, ça a changé, ouais. Ouais, mais sinon, ça va, hein. Bon, c'est ça. Voilà, ça c'est propre, on peut pas dire.
Bon, ça va, non, mais c'est toujours les mêmes, quoi.
Vous voyez nos élèves, ils sont en deuxième génération et je discute avec plein de parents d'origine africaine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Nos élèves, ils savent pas ce qu'ils sont. Ils savent pas s'ils sont africains ou ils se sentent pas africains. C'est normal, ils n'ont jamais habité. Et en même temps, ils se sentent pas français. Ils sont entre les deux. Et c'est ça qui est difficile sur la deuxième génération. C'est pas spécialement ici, hein, c'est mondial. Hein. Les deuxièmes générations, c'est le plus dur. Et nous, on a des élèves deuxième génération. reparlé l'autre jour avec un parent. Je suis allé frapper à la porte d'un parent, là, un soir. Il dit, vous savez pas ce que vous êtes. Il disait ça à sa fille. Vous savez pas ce que vous êtes. Vous êtes pas africain, vous êtes pas français. Et ils ont ce malaise, ils ont ce malaise.
En France, on leur dit qu'ils sont pas d'ici, et en Afrique,
ils se sentent pas d'ici. À la rigueur, il n'y a même pas besoin de leur dire. Automatiquement, ils se sentent pas vraiment français. Et en même temps, ils savent très bien qu'ils sont pas vraiment africains. Même si pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont pour leur pays d'origine. Mais ils savent très bien qu'ils sont pas de là-bas. Et que s'ils allaient là-bas, ils connaissent pas le pays de façon. Ils sont entre deux eaux, c'est ça qui est dur. C'est à nous de les accompagner, de leur montrer vraiment qu'ils sont français, quoi. On peut avoir aussi une culture d'un autre pays, mais ils ont besoin de se ressentir de quelque part. Et bien, c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils sont français, ils sont français. On est tous pareils.
Monsieur Hall, c'est un bon directeur. Et très gentil aussi.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Shaima Shebata. Profananuka Fatim.
Regardez ce couloir. Il n'y a même pas de lumière dans ce couloir, il n'y a pas de puits de lumière, on a réussi à mettre du carrelage noir. Sérieux, quand même. Allez-y.
Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle ? La France est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français.
Et en fait, quoi là, les deux hommes qui
sont. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre.
Vous, vous préférez Coysevox ou Berlioz, madame?
Je sais pas, je suis pas allée à Coysevox.
Ah, Coysevox, c'est nul, nous, on est meilleurs que eux. On est boss des boss, ma gueule.
Je suis ferie, Coysevox, ramenez tout. Ramenez tout le monde.
Madame, j'ai une question. Est-ce que vous avez été martyrisée durant votre petit séjour?
Ici? Non.
Est-ce que vous trouvez que ce collège est sauvage?
Non.
Voilà, les gens disent que le collège, il est sauvage, il est pas bien. Mais je sais pas, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes.
Non, c'est vraiment un collège très accueillant.
Ouais,
venez, c'est très chaleureux.
On vous accueillera avec plaisir.
Ouais, venez à Berlioz.
Berlioz, c'est la base.
Je suis chez moi, fier d'être français, d'origine guinéenne, fils de Monsieur Diallo. C'est Black M qui fait un carton chez les petits jeunes, garçons et filles, et dans tous les collèges, et ça c'est bon signe.
Et c'est bon signe, oui, et en mettant en place des projets en commun, comme une section rugby par exemple, dès l'année prochaine, et plein d'autres choses, les enfants apprendront à se connaître et à dépasser leurs peurs. Merci en tout cas à tous les élèves et les adultes du collège Hector Berlioz, on leur souhaite bonne chance. Et tout de suite Antoine, tu nous emmènes rencontrer d'autres enfants qui eux aussi veulent s'en sortir.
Les mis à la rue, M-I-E, comme mineurs isolés étrangers. Après nos maraudes devant le centre humanitaire Paris-Nord, destiné aux hommes seuls, cette semaine on part à la rencontre des enfants qui ont ramé pour arriver jusqu'ici et galèrent pour être pris en charge en tant que tels, des mineurs isolés. Et ce sont encore les collectifs et les bénévoles qui s'y collent. L'ADJI, pour l'accompagnement et la défense des jeunes isolés étrangers, et la TIMI, la team mineure de Paris d'exil. Elles sont sur le front, ces assos, quand plus d'un migrant sur trois est un enfant, quand 80% d'entre eux se retrouvent à la rue, à Paris, quand l'aide sociale à l'enfance ne les protège pas, alors que la loi le prévoit.
Oui, il joue alors, au tennis.
Très bien, oui, il joue au tennis. Alors ça fait quoi, Ali? Donc si tu lis tout ce qu'il fait, Ali, alors Ali...
Ali, il n'habite pas à Paris.
Oui.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Ma poche, il y a mon téléphone.
Ali habite ou n'habite pas à Paris, je ne sais pas. Ça
c'est la bibliothèque Couronne, hein, c'est ça, la mairie de Paris.
Ouais.
Et donc vous accueillez un cours là, c'est ça, il y a des jeunes qui arrivent.
Tous les jeudis et vendredis matin, on accueille des cours pour des mineurs isolés, des jeunes qui viennent d'arriver à Paris. C'est 2 heures de cours de français. Donc il y a différents niveaux, les professeurs s'organisent par niveau et ça se passe à la bibliothèque, ce qui permet, nous on propose une inscription à toutes ces personnes et après ils ont une carte de bibliothèque gratuite, ils peuvent emprunter des livres, utiliser les ordinateurs et simplement aussi avoir un lieu dans lequel ils peuvent revenir pendant la semaine. Voilà, ils sont les bienvenus.
Il faut installer une petite salle de classe, c'est ça ?
Oui, voilà. Ouais. Comme la bibliothèque, il y a 2 lieux. Donc on fait un petit lieu pour ceux qui arrivent, donc les primo, enfin, ceux qui commencent à venir avec nous à la bibliothèque. Et donc du coup, ça nous permet de savoir que c'est un endroit où arrivent les nouveaux. Voilà. Et après, de l'autre côté, c'est des tables disposées. Et là, on a des groupes qui s'installent. Donc eux, ils savent à quelle table ils sont. Ok, alors on va lire la première ligne. Donc ça c'est un tableau, d'accord ? Ça c'est un tableau, ça c'est une ligne, et ça c'est des colonnes, d'accord ? Donc on va lire la première ligne.
Regarde, donc jamais de R, puisque là on conjugue. Alors, lis toute ta phrase, relis ta phrase.
J'ai oublié de faire le O.
Alors, relis ta phrase du début.
Je regarde la télévision.
Ouais.
Mamadou, il faut te poser la question. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, pose-lui la question. Vas-y, Mamadou.
Qu'est-ce que vous faisiez ? Je fais une émission tous les samedis. Et là, depuis un mois, je fais sur la question de l'accueil. Comment vous êtes accueilli à Paris ?
C'est tellement un peu compliqué pour nous parce qu'on est venu ici sans abri. On ne sait pas où on dort. Les demi nous refusent. Il dit qu'on ne peut rien faire pour vous. Votre document, c'est faux, c'est pas faux. Amener d'autres documents, on amène ça, il veut dire que c'est faux encore. C'est à cause de ça qu'on est un peu triste ici maintenant.
Allez, on continue. Alors,
Demi. C'est tout bon ? Dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers.
Allez, on va continuer.
Alors, vous faites. Voilà, avec Ali.
Alors là, il y a plusieurs groupes qui sont créés, il y a plein de profs qui sont là, il y a plein d'élèves. Comment ça s'organise alors ces ateliers de français ?
Alors,
vous êtes une intervenante aussi, hein, c'est ça ?
Oui, je leur donne des cours aussi et j'organise un petit peu comment ça fonctionne. Et chaque matin, on accueille souvent 3 ou 4 nouveaux qui viennent d'arriver. On est idéalement situé parce qu'on est juste à côté de la Croix-Rouge et du Demi et forcément on a beaucoup de jeunes qui arrivent soit d'ici, soit qui ont eu l'information par l'ADJI, soit par des soutiens qu'ils ont rencontrés lors de maraudes sur les campements.
ADJI, accompagnement et défense des jeunes isolés étrangers.
Et en fait on est à peu près une dizaine de profs chaque matin et il y a à peu près une soixantaine d'élèves, donc pas forcément toujours les mêmes, mais il y a un roulement.
Alors vous êtes organisé comment ? Alors c'est anciennement le collectif parisien de soutien aux exilés, le CPSE, c'est ça ?
Alors la TIMI fait partie du CPSE, qui est le collectif parisien de soutien aux exilés, qui est devenu une association qui s'appelle aujourd'hui Paris d'Exil. La TIMI, c'est l'équipe mineure de Paris d'Exil. On a sollicité la bibliothèque municipale de Couronne pour avoir des locaux à disposition, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour nous de trouver des salles où on peut accueillir comme ça une soixantaine d'élèves. Donc c'est vraiment le cadre idéal ici, parce que c'est un lieu où ils viennent prendre des cours, mais c'est aussi un lieu où ils peuvent revenir à d'autres moments de la semaine. Donc on leur fait des cartes de bibliothèque, donc chaque élève, chaque apprenant qui est ici a une carte de bibliothèque et il peut après, en semaine, revenir dans toutes les bibliothèques municipales. Alors au tout début, il y a un an quand on a commencé à leur donner des cours, on faisait ça dans les parcs l'été quand on pouvait, mais c'est vrai que c'est pas un cadre idéal. Et là c'est vraiment... Bonjour. Là c'est vraiment idéal. Les cours sont nés vraiment de la demande des jeunes. C'est-à-dire que nous, lors de nos maraudes ou sur d'autres moments où on se regroupe, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Et la première des choses, ça a vraiment été apprendre le français. Même pour certains jeunes qui viennent de pays francophones, ils ont vraiment eu envie d'avoir des cours. Et ça a été une demande très forte et très vite ça s'est mis en place et ça a été... C'est un bonheur pour nous de leur donner des cours parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre. Ils sont là, ils sont réguliers, ils reviennent chaque semaine. Ce qui est extrêmement frustrant par contre, c'est de leur demander constamment d'être patient, parce que certes, ils apprécient avoir des cours ici, mais c'est pas des cours officiels. Ils ont tous envie d'aller à l'école et c'est une demande très forte. Moi, je sais qu'à la fin des cours, j'ai toujours une dizaine ou une quinzaine de jeunes qui viennent me voir en me demandant alors mon dossier, est-ce que tu sais où ça en est, j'ai envie d'aller à l'école, et c'est très compliqué pour nous de leur demander toujours d'être patient. Et on sait très bien que c'est compliqué, qu'il y a peu de place, qu'on a du mal, qu'on pousse un maximum toujours avec l'ADJI pour faire en sorte qu'ils soient scolarisés le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, ça devient mission impossible sur Paris. Donc c'est très frustrant et pour eux et pour nous de voir en fait cette situation se pérenniser. Bonjour. Bonjour.
Moi, je viens ici pour venir apprendre les cours. Plus que j'ai envie de partir à l'école, j'ai été passé à la demi, j'ai été refusé. Je ne sais pas pour quelle cause ils m'ont refusé. Ils m'ont rien dit. Bon, ils m'ont dit de passer au tribunal, à Grand Salle de Paris, à la cité. Bon, je suis passé là-bas. Bon, j'ai eu une avocate. Elle a fait mes procédures, tout et tout. Bon, je suis passé devant le juge. Le juge a dit qu'il ne peut pas me prendre. Que parce que ça prouve pas que je suis un mineur. Pourtant, je suis dans la rue. Je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais pas où aller dormir. Bon, le juge, je suis passé devant le juge. Bon, il m'a dit qu'il ne va me faire un test de zoo. Il n'a pas dit dans quel temps le test aura lieu. Peut-être ça fait, parce qu'il dit que ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je ne sais pas c'est quel jour il va m'envoyer une convocation pour aller faire le test de zoo. Dans ce cas, je dors dans la rue. Bon, j'ai été hébergé par les assistants sociaux qui sont ici là, qui nous a donné un hébergement à dormir, tout et tout. Dans ce cas, bon, ça fait qu'un jour, on se va dormir à Belleville le jeudi, après demain, c'est à Couronne, après demain, c'est quelque part là-bas. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Bon, moi, j'ai 16 ans. Bientôt, je vais avoir 17 ans. Je suis dans la rue. J'ai envie de partir à l'école, puisque j'étais au pays, je suis parti à l'école. Arrivé ici, je vais continuer mes études, mais il n'y a pas aucune possibilité pour que je puisse partir à l'école. Ce soir m'a dit, c'est la galère totale. Nous sommes des mineurs. Les mineurs sont dans la rue, ils ne font rien. On ne sait pas comment on va organiser notre avenir, comment notre avenir doit être demain. C'est décevant, quoi. On ne s'attendait pas à ça, quoi. Puisque nous sommes des pays francophones, on vient ici pour qu'on aime la France beaucoup. Parce que la France, notre pays a été colonisé par la France, on est venu tout et tout. Pour qu'on puisse venir ici.
Vous venez d'où?
Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. La convocation, il dit que ça peut durer 3 à 4 mois. Dans tout ça, là, je vais faire dans la rue. C'est triste, quoi.
Alors, majoritairement, les jeunes qui sont ici, c'est des jeunes qui se sont présentés au DEMI, à la Croix-Rouge, qui ont été refusés et qui, du coup, font un recours administratif. Donc, ils sollicitent le juge pour la reconnaissance de leur minorité. Et ça prend souvent 6 à 8 mois, les démarches. Et pendant tout ce temps-là, en fait, ils n'ont pas le droit à la scolarisation. Ils n'ont pas l'accès à la scolarisation. Du coup, ça fait des jeunes qui perdent un temps énorme et qui n'ont rien à faire de leur journée. Et pendant ce temps-là, on leur propose ces cours-là. Donc c'est vrai qu'avant la scolarisation, ça leur permet d'être plus à l'aise, de commencer à avoir quelques bases en français. Et je pense que c'est pas mal pour eux, à partir du moment où ils accèdent à la scolarisation, pour les plus chanceux. Voilà, ils auront eu ce premier contact avec la langue et cette première introduction à ce que pourrait être un cours de français. Donc c'est quand même idéal pour eux.
Alors pourquoi ils sont refusés pour une grande majorité donc, par le DEMI?
Alors, les raisons sont diverses. Majoritairement, c'est des rejets au faciès. C'est-à-dire que tout de suite, au DEMI, on leur dit « je ne crois pas que tu es mineur ». Alors, parce qu'ils ont un physique trop imposant, ou sinon on va remettre en cause leur parcours. Il y a un petit entretien qui est fait au DEMI, qui est un entretien très succinct. Et souvent, sur les papiers des refus, on peut lire le jeune a des informations qui ne sont pas cohérentes. Voilà, donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sortent du DEMI avec un papier de refus. Et c'est à ce moment-là que nous, on les aide en partenariat avec l'ADJI pour faire des recours administratifs, pour les aider à prouver qu'ils sont mineurs.
Je m'appelle Moussa, j'ai 17 ans. J'ai venu par 2015, je suis venu en 2015. C'est très, très compliqué. Il y a les gens qui arrivent, ils ne sont pas des dossiers, ils sont pas des, aucun dossier, document. Aucun acte de naissance. Moi-même, j'arrivais, je ne savais pas mon âge. Je ne savais pas mon âge.
Moi, ils n'ont pas même regardé mes documents. Parce que, bon, je suis venu en France, j'ai perdu mes documents. Parce que lorsque je suis venu, je suis là, tu viens d'un coin où que tu n'as personne. Donc, ça fait que tu as ton sac dans ton dos, tu dors dans la rue. Donc, c'est en ça, moi, j'ai perdu mon sac avec tous mes papiers. Donc, du coup, je suis parti à DEMI, ils m'ont montré à DEMI, je vais à DEMI. Ils me présentent, on dit, bon, voilà, comme tu as perdu, ouais, non, on te comprend. On m'a mis à l'hôtel. Maintenant, à l'hôtel, bon, après, ils ont dit, non, que parce que tu n'as pas tes documents, donc, tu es réfugié. Et donc, ils proches ici. Donc, j'ai fait appel au pays, à Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire.
Bled. Ils ont fait venir tous mes documents, attestations et tout, parce que moi, vraiment, j'ai perdu mes parents. Bon, on avait les attestations, les décès et tout. De mes deux parents, plus l'excès de naissance du décès de mes deux parents. Ça vient, madame a juste dit non, qu'elle ne connaît pas tous ses papiers. Et sa décision, c'est non. Donc bon, voilà, du coup, depuis ce jour-là, je suis là. Comme ça, en fait, il n'y a pas d'habitation fixe. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien.
Et vous avez quel âge?
16 ans.
16 ans.
Et demi. Je suis là depuis le mois de mai dernier. Ça fait bientôt un an, là. Ouais. Dieu merci, il vient nous aider, il nous donne des cours. Bon, on est là, on suit le cours un peu petit à petit. Voilà.
Et là, vous avez pris un livre?
Ouais, il y a pris un livre, Camara Life. Depuis au pays, je connais ça. C'est vraiment là que je connais. Ça parle d'un enfant qui a beaucoup souffert.
L'enfant noir,
ouais,
c'est.
Camara Life. C'est un Guinéen. Il a étudié en France, mais c'est un Guinéen.
Écrivain guinéen, Camara Lai.
Il est né à Kouroussa, un village de Haute-Guinée, le 1er janvier 1928. Après l'étude à l'école française, il part à Conakry, la capitale, pour suivre sa scolarité, titulaire d'un CAP de mécanicien. Il tente ses succès de devenir ingénieur en France. C'est alors que Camara Lai, qui traverse une période de désarroi, publie L'Enfant Noir, son premier roman, en 1953. En 1956, à l'époque où la Guinée s'apprête à devenir indépendante, il retourne à Conakry. Et jusqu'en 1963, il occupe des fonctions importantes au ministère de l'Information. Avant, il s'exile définitivement au Sénégal, devant la dérive dictatoriale du régime de Sékou Touré, qu'il dénoncera en 1966 dans Ramos, son premier roman. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? Dans ma poche, il y a mes clés. Ça, c'est les clés de ma maison, de mon vélo, d'accord? C'est les clés de ma moto. Non, je n'ai pas de moto, c'est un vélo. Hein, c'est ça. Par contre, si c'est des clés, ça veut dire que ce n'est pas les miennes. Elles ne sont pas à moi. Hein. C'est des clés, c'est à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les clés de ma maison. Ok?
See a brother on the street, see him and he turns to me. Is there a road I cannot see? Is there a road right behind my eyes? Right behind my eyes, just beyond my sight.
Donc ça fait Ali, il habitait à Paris. Alors on a vu, on regarde.
What is it with certainty? What is it? What is it that gives you peace? What is the same for me? I don't know what to do, and I don't know what to say.
Et habiter, on a dit ça, c'est quand on fait à la trinité.
Won't you show me the way? Show me the way.
Stalingrad.
Hashtag comme un bruit sur France Inter.
Avenue de Flandre, Paris 19e, boucherie, triperie, Flandre, charcuterie, volaille, mairie de Paris, bibliothèque Claude Lévi-Strauss, et voilà l'antenne Jeune Flandre.
Ben, je crois que c'est un des seuls espaces jeunes qui accepte de manière inconditionnelle tous les jeunes. Donc ils ont accueilli pas mal pendant les temps de grand froid les jeunes étrangers isolés la journée avant qu'ils retournent le soir sur le trottoir d'en face pour dormir quoi, dans les tentes. Voilà. Et ils sont très sympas et très ouverts et ils ont prêté gracieusement le loco à la G pour leur permanence 4 fois par semaine. Quoi.
Parce que c'est un endroit qui a été quand même assez entre guillemets stratégique à un moment parce qu'il y avait effectivement...
Il y avait les camps là ici.
Ici sur la baie de Flandre.
Ouais.
16 septembre dernier, Stalingrad, avenue de Flandre, des camps qui ne cessent de grossir et de se reconstituer malgré les évacuations.
Demain, tomorrow. Demain, aujourd'hui en principe, c'est uniquement les mineurs.
Des migrants, on va dire, hein, qui étaient auparavant sur Stalingrad, ils ont dû rester dans le coin à la suite de l'évacuation. Et donc, on les retrouve, ils viennent de temps en temps ici. En fait, il y a deux catégories de permanence ici. Il y a donc l'espace Jeune Flandre, qui est ouvert à tous, jeunes, nouveaux, enfin, majeurs, voilà, pour des renseignements Pôle emploi ou même utiliser les ordinateurs, voilà. C'est ce que font les migrants la plupart du temps. Et puis, il y a une autre permanence qui est celle de la G. On fait ça, on fait 4 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il y a 2 permanences scolarité, le lundi et le mardi, ça se passe à 10h, et il y a 2 permanences juridiques qui se passent donc le lundi soir à 18h, comme aujourd'hui, et puis le samedi matin, on commence à 9h. Voilà. À la GIE, on est tous des bénévoles. Hein. Voilà.
Je suis ici pour prouver que ma minorité, j'ai tout mon dossier qui était envoyé au Maroc. Ils m'ont pris en charge pour quelques jours, et après, ils ne m'ont pas accepté. Pour cela, j'ai vu une avocate ici. Ça fait 1 mois que j'attends mon dossier.
Et là, vous l'avez reçu ? Ouais. D'accord.
C'est pour cela que j'avais une audition avec le juge. Sinon, si ça ne se passe pas bien, je vais aller en Allemagne. Tous mes amis, ils ont parti, ils ont fait le même recours et ils ont réussi.
En Allemagne ?
Oui.
Mais il va falloir apprendre l'allemand.
On est encore jeune, c'est là-bas, il y a tout, il y a beaucoup de développement, je peux faire une formation ou quelque chose sur beaucoup de métiers.
Et vous avez quel âge ?
16 ans et demi. Et pour D'accord. l'instant, ça fait 1 mois et quelques, donc il faut y accélérer, c'est tout, c'est ce que je veux.
D'accord, donc maintenant c'est voir le juge, parce que dans un premier temps, votre demande a été refusée par la DEMI.
Oui.
Et donc là, vous avez des nouveaux papiers et vous passez devant le juge pour essayer de faire reconnaître, hein, c'est ça votre âge, quoi, véritable. Ouais.
Je suis Daniel Garissi, donc de l'ADJ. Moi, j'y suis depuis 2012 à peu près, donc ça fait déjà mal.
Nadine Lyonnais, depuis 2 ans à l'ADJ.
Christian Bardel et je suis bénévole à l'ADJ.
Alors, on est au 49 Terre, avenue de Flandre. C'est dans le 19e arrondissement, à côté du métro Stalingrad. Et en fait, cette permanence s'est imposée parce que, à côté de ce lieu, il y avait ce qu'on appelait avant la PAOMI, qui était gérée par France Terre d'Asile. C'était le centre de l'accueil de tous les mineurs qui se présentaient en tant que mineurs, qui se trouvaient juste à côté. Et il se trouve qu'il y a eu énormément de jeunes qui se retrouvaient à la rue, donc refusés en tant que mineurs. Et donc, très vite, on a été débordés par des jeunes, donc mineurs, qui se sont retrouvés à la rue. Donc, plusieurs associations, Logisti, il y avait l'ALDH, il y avait Sud Territorial, il y avait un syndicat CGT, il y avait le syndicat de la magistrature, bon, je ne peux pas tous les citer, ont décidé ensemble de créer une structure qui accueillerait ces jeunes, et qui verrait en fait comment juridiquement on pouvait donner suite à leur refus de prise en charge ou refus de minorité de la DASES, qui est la direction de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc voilà comment s'est constitué l'ADJI. C'est des permanences, on reçoit tous les jeunes et on les aide en fait à saisir le juge pour enfants, en application d'un article. C'est l'article 375 du Code civil et qui dit que tout mineur est considéré comme en danger dès lors qu'il se retrouve seul et isolé sur le sol français, sur le territoire français. Voilà. Bah, c'est la situation à laquelle on s'est confronté avec des dizaines de gamins et gamines aussi, puisqu'il y avait quand même quelques filles qui se sont retrouvées dehors, sans aucune protection et sans aucune solution, ni d'hébergement, ni d'encadrement, rien du tout, en dépit de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a déjà une vingtaine d'années.
Le plus dur pour eux, c'est qu'on estime qu'ils mentent. Ils sont en état de... Ils mentent, tout simplement, tout est falsifié, et c'est très très dur à vivre. Par exemple, quand ils arrivent au demi, donc on en parlait, c'est le premier accueil de la Croix-Rouge, eh bien, on leur dit, tes papiers sont pas bons. Ben, comment ça, ils sont pas bons? Ils n'ont même pas été expertisés, ces papiers. Comment peut-on se permettre de dire qu'ils ne sont pas bons? Ou qu'ils ne leur appartiennent pas? Pourquoi ils leur appartiennent pas? Parce que sur leur acte de naissance, les pauvres n'ont pas une photo, mais personne n'a de photo sur un acte de naissance.
À partir du moment où ces jeunes, voilà, quand ils sont passés au DEMI, et qu'on a refusé leur minorité, ou tout du moins on a émis des doutes sur leur minorité, parce que ça peut être que des doutes à ce stade-là, ils n'existent plus en fait dans la sphère publique. Oui. Voilà. Ils sont sans statut, oui, comme les sans-papiers, comme les sans-droits, comme les sans-logis, comme les sans... Voilà, ce sont des sans. Et tout ce qui est sans, au regard de la législation française, eh bien, ils rentrent dans aucune case.
Justement, moi, c'était vraiment en tant que travailleur social, je ne savais pas que des mineurs étaient à la rue. Pour moi, ça me paraissait inconcevable, parce que je viens d'une culture du travail social où on s'occupe des jeunes mineurs, et pour moi, c'était ahurissant de savoir qu'il y avait des jeunes dehors, quoi, tout simplement. J'avais travaillé pour accompagner des jeunes qui, suite à une mobilisation de l'ADJI, avaient eu une prise en charge, mais vraiment une mesure dérogatoire de la ville de Paris, financée par la région. Et dans leur accompagnement, en fait, j'avais été surpris par le fait qu'ils n'aient accès à pas grand-chose pour les inscrire pour des activités. C'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas de représentants légaux. Pour leur permettre d'accéder aux soins, c'était aussi la croix et la bannière parce que ils avaient pu être pris en charge un mois ou deux. Donc, ils avaient été enregistrés pour bénéficier de la CMU. Sauf que, comme ils ont été mis dehors deux mois après, cette CMU n'était plus valable. Donc, on allait dans les bureaux de l'aide médicale d'État qui nous renvoyaient le fait qu'ils étaient encore inscrits à la CMU. Enfin bref, tous ces micmacs-là qui fait que, du fait de leur non-reconnaissance de minorité, ils n'étaient ni reconnus mineurs ni reconnus majeurs. Donc, pour toutes les démarches de la vie quotidienne, c'était très compliqué. Donc, en tant que travailleur social, d'habitude, on n'a pas ces problèmes-là. Et j'avais été frappé par cette situation que je connaissais pas. Je me suis donc intéressé après dans mes études sur ce thème-là, des mineurs étrangers non reconnus mineurs. Je voulais voir dans quelle mesure ces jeunes aussi, du fait de leur non-reconnaissance par les services sociaux, étaient toujours renvoyés davantage comme des étrangers plutôt que comme des jeunes à protéger.
C'était comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Juste après les infos, les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.